Écoutez bien. Ozone, O3. Gaz, 3 mm d'épaisseur. Environ 300 dopsons.
Ozone libre. Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le petit Thomas attend ses parents à la caisse centrale.
Ozone libre.
Qu'est-ce qu'on a retrouvé, Thomas ?
Ozone libre, de cristaux.
Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le temps passe.
Bienvenue chez Dobson. Ozone libre.
Ozone libre.
Ozone, une heure de liberté.
La blague de Didier du jour, c'est un fils qui demande à son père, « Papa, c'est quoi un alcoolique ?» Et son père lui répond, « Bah, un alcoolique, c'est quelqu'un qui voit double. Comment ça ?» Bah, tu vois les quatre arbres là-bas, bah, un alcoolique, il en verrait 8. Mais papa, il n'y a que 2 arbres.
Détention carcérale, enfermement, claustrophobie, réinsertion, Alcatraz, bagne, vie de famille, sexe parloir, isolement, avocat, parentalité, vie de couple, orange, maladie, promiscuité. Promise non cuitée, bébé parloir, maintenir le lien, visite, courrier, téléphone, cantiné, promenade, sortie, libération conditionnelle, bracelet électronique, privation de liberté, droit de l'homme, avenir des prisons, alternative, remise de peine, liberté provisoire, accompagnement mineur. Vous l'aurez compris, le thème du mois est les prisons et les familles de détenus. D'après l'Observatoire international des prisons, consacré par la Convention européenne des droits de l'homme, le droit à la vie privée est malmené en prison, comme les liens avec l'extérieur qui sont pourtant indispensables pour lutter contre les effets néfastes de l'emprisonnement, règles pénitentiaires européennes, et des valeurs essentielles pour préparer la sortie. Si certains progrès ont été accomplis ces dernières années, avec par exemple le développement d'unités de famille, de vie familiale qui permettent de recevoir des proches en toute intimité, bien que la génération tardait à s'appliquer avec de surcroît des conditions d'accès limitées. La possibilité de maintenir des contacts avec l'extérieur reste extrêmement réduite et contrôlée. Les liens sont régulièrement mis à mal par la distance entre les personnes incarcérées et leurs proches, la multiplication des transferts, les restrictions aux permis de visite, des conditions de visite les plus souvent déplorables et plus globalement des réflexes sécuritaires qui prime sur toute autre considération. La sexualité demeure en outre un tabou, frappé d'interdit puisque toute personne détenue dans des rapports au parloir ou s'adonnant à des actes intimes en cellule est passible de sanctions disciplinaires pour avoir imposé à la vue d'autrui des actes obscènes. Pour en savoir plus, nous aurons exceptionnellement au téléphone M. François Besse, coordinateur du pôle d'enquête de l'Observatoire international des prisons, section France.
Alors au sommaire aujourd'hui, une interview hors les murs, des lectures de textes libérés sous condition de l'atelier du point des mots, des musiques pour s'échapper par les oreilles, une petite cuisine anti-scorbut, une minute du pôle privé de liberté, un micro-trottoir en promenade, un narvalo inarrêtable, une rubrique à braque universellement mondialisée. Et pour vous servir aujourd'hui, Rémi, Yacouba, Stéphane, Aboubacar, Karim, Edo, Bakary, Marie-Lou, Timothée, Vivien et Sandrine.
Comment s'en sortir ? Un texte de Grégory. Je me réveille toujours les yeux fermés. Je ressens ma couverture humide. J'entends le bruit d'autres personnes hurler. L'odeur de moisi m'irrite les narines. J'ouvre les yeux et je vois des barreaux aux fenêtres. J'ai l'impression d'être en prison. Est-ce le bon endroit ? Je ne sais guère. Comment suis-je arrivé là? M'a-t-on drogué? Comment vais-je faire, surtout maintenant que je suis enfermé?
La liberté n'est rien au vu de ce qu'ils nous ont pris. Mes cellules grises auraient aimé être simples d'esprit. Réveil en sursis, 9h de l'après-midi, de plus en plus marre. Mais quand je dors pas chez moi, je me lève avec des ch'tards. L'isolement, je m'y suis mis tard. Le temps de m'auto-juger sans bien sur les éléments à décharge. Avant, ça allait à peu près, je vivais seulement en marge. Puis je me suis mis à compter le nombre de carreaux qu'il y a sur ce carrelage. Avec un peu de chance, je deviendrai barge et fêlé. Je me suis même soupçonné démêlé. Chez nous, on vivait sous scellé. Chaque fois qu'on croyait entendre frapper, c'était toujours la télé. La prison ne sert qu'à éviter l'évasion. Une fois dehors, je continue d'insulter les avions. La prison ne sert qu'à éviter l'évasion. Une fois dehors, je continue de ressentir des tensions. Complètement paumé, je me bouffe encore des coins de placard. Ne sors me promener que pour embrasser mes remparts. Mes forces de retenir mes rares visiteurs jusqu'à offrir un peu de tabac au gars qui est venu relever le compteur. M'arrive de bouffer avant 19h, de prendre 2-3 douches par semaine. Et quand je trouve pas le sommeil, je double ma peine. Donc je fais des pompes, faute de mieux, je baisse le sol ou je me purge sur les pages de pub d'un magazine qui colle. Est-ce que tu préfères qu'il caille ou que ça pue? Moi je m'en fous, j'ai mouru. Dans les deux cas je m'habitue. Bref, mon cœur attend des nouvelles du greffe. Déjà au collège, un surveillant fut surpris que je l'appelle chef. Ai-je bien entendu rester croupir? Je te jure qu'au fond du trou, on y reste tant qu'on s'imagine que c'était pire. Que tout ne tient qu'à un yo-yo. Le voisin fait ses travaux et moi je colle mon oreille au tuyau. La prison ne sert qu'à éviter l'évasion. Une fois dehors, je continue d'insulter les avions. La prison ne sert qu'à éviter l'évasion. Une fois dehors, je continue de ressentir des tensions. Des tensions, des tensions, des tensions,
des tensions,
des tensions, des tensions,
des tensions,
des tensions. Avec des barreaux, une blonde avec une boule à zéro, je trouve ça beau. J'aime que mon état se rapproche d'un ciel plutôt gris pâle. Je peux me relaxer à huis clos, je ne culpabilise pas. Ressasser dans les deux sens, coincé dans un sas où ta date de naissance pourrait bien être le mot de passe. Bah ouais, même le temps commence à se faire chier. On m'a enfermé une fois, depuis je vis comme si j'étais recherché. À l'ombre d'un contre-jour, dans quelques 9 mètres carrés qui donnent sur la cour. Et un mur de briques rouges, et un mur de briques rouges, et un mur de briques rouges.
Nous venons d'écouter Virus, bonne nouvelle.
Eh bien oui, bonjour. Aujourd'hui, nous avons au téléphone pour parler de la prison Monsieur François Besse, coordinateur du pôle enquête de l'Observatoire international des prisons, section France. Monsieur Besse, vous êtes là ?
Oui, bonjour.
Bonjour, bonjour. Monsieur. J'aurais voulu savoir, qu'est-ce que l'Observatoire international des prisons ?
Alors, on est une association loi 1901, c'est-à-dire une association de citoyens qui se préoccupe du respect des droits de l'homme de manière générale, et puis plus particulièrement, bien évidemment, du respect des droits fondamentaux et des droits de l'homme en prison, dans les prisons en France.
Et depuis quand existe l'association ?
Alors, au niveau international, on a été créé en 1990, et la section française, donc dont je fais partie, en 1996.
Oui, je me suis... à propos de, l'Observatoire international des prisons, qui est le créateur
Alors, c'est un ancien journaliste qui s'appelle Bernard Bolz, donc qui avait fait quelques mois de prison dans les années 70 et qui s'était dit il faut absolument créer quelque chose, parce que à l'époque, on avait, si vous voulez, les grandes associations, on va dire, généralistes sur les droits de l'homme, comme la Ligue des droits de l'homme ou Amnesty, et sinon, il y avait juste des comités de soutien de certains détenus, mais personne se préoccupait de, on va dire, de la situation du prisonnier lambda, et du coup, il s'est dit il faut absolument faire quelque chose, et donc il a créé l'Observatoire à ce moment-là.
Alors, quels sont les objectifs de l'association ?
Alors, on a dans nos statuts posé le postulat que si la prison, elle était efficace, ça se saurait, il n'y aurait plus de récidive, les gens ne recommenceraient pas, etc. Et que, d'autre part, l'enfermement, l'emprisonnement, tel qu'il existe à l'heure actuelle, il constitue un traitement inhumain et dégradant. Donc, partant de là, nous, on milite pour réduire, en fait, l'utilisation de la prison par la justice, c'est-à-dire faire en sorte que les peines soient purgées autrement qu'en prison, puisqu'on sait que la prison, elle détériore plutôt les gens et que, du coup, c'est pas efficace.
Et mis à part ces actions d'intervenir pour que ça se passe hors de la prison, notamment, je pense que vous pensez aux condamnations et tout ça.
Ouais.
C'est ça, oui. J'aurais voulu savoir, quelles sont vos autres actions ?
Écoutez, au quotidien, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte de l'aide aux personnes détenues et à leurs familles. On les renseigne sur les démarches qu'elles peuvent faire quand elles rencontrent un problème. Et puis, parallèlement, on a toute une démarche de sensibilisation et de plaidoyer sur les questions de la justice et de la prison pour essayer de faire bouger les choses.
Alors, je vais vous demander... Quelles sont les peines alternatives à la prison ?
Il y a une étendue extrêmement vaste. Hein. Il y a pour certaines condamnations, ce sont des amendes. Vous avez des condamnations qui peuvent déboucher sur ce qu'on appelle du travail d'intérêt général, c'est-à-dire on a finalement commis quelque chose contre la société en ne respectant pas la loi. Bah du coup, on va le rattraper entre guillemets en faisant un travail pour la collectivité. Ça existe dans pas mal de villes. Hein. Des gens, par exemple, qui vont faire des travaux pour la ville ou réparer des choses ou s'occuper des espaces verts ou tenir des permanences dans des associations, etc. Et donc ça, c'est le travail d'intérêt général. Sinon, dans les autres mesures alternatives, il y en a qu'on connaît bien, c'est le sursis avec mise à l'épreuve. Vous pouvez avoir aussi des peines, par exemple pour certaines personnes, notamment les personnes qui ont des problèmes d'addiction, des condamnations qui sont avec des obligations de soins pour décrocher, on va dire, de son addiction. Donc voilà, l'éventail, il est assez large hein, des possibilités de peine.
Mais en général, qui vous contacte et dans quel contexte, je veux dire, je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire,
oui.
Qui vous contacte et comment justement peut-on vous contacter si vous pouviez lancer... Ouais.
Alors les personnes détenues, elles nous contactent essentiellement par courrier. Et puis un peu par téléphone, puisque maintenant, depuis quelques années, il y a l'accès au téléphone en prison. Et sinon, les familles et les proches de détenus, ils nous contactent par tous les moyens classiques. Hein. C'est ou par rencontre directe, ou par téléphone, ou par mail, ou par les réseaux sociaux. Voilà, on est contacté un petit peu par tous ces biais-là.
Alors, quels sont les droits des familles de détenus ? Et de leurs proches.
Ben alors les familles de détenus, ce qu'on ne sait pas en général, c'est que la plupart, quelque part, ils vivent en prison ou en tout cas autour de la prison de toute façon, parce que leur proche est dedans. Et du coup, ils sont soumis au rythme des parloirs, ils sont soumis à l'attente, par exemple, d'avoir des nouvelles du proche qui est incarcéré. Il y a beaucoup de gens qui purgent leur peine très loin de l'endroit où vit la famille. Donc ça, ça veut dire que ça coûte énormément d'argent pour pouvoir aller au parloir. Il faut pouvoir prendre des billets de train, parfois payer un hébergement. Et puis souvent, quand il y a une personne incarcérée dans la famille, bah, c'est quelqu'un qui amenait des revenus. Et puis du jour au lendemain, bah, il n'y a plus cette source de revenus. Et bah, du coup, la famille est en difficulté à ce moment-là.
J'aurais voulu savoir, la justice tient-elle compte des familles pour la localisation des lieux de détention, surtout si c'est à l'étranger ou au moins assez éloigné, quoi.
Ouais. Alors, dans les textes, dans la loi, normalement, la justice doit tenir compte de la proximité, c'est-à-dire qu'une personne qui est incarcérée, elle doit l'être dans la prison la plus proche de là où vit sa famille. Dans la réalité, c'est pas le cas. Il y a des gens qui purgent leur peine très très loin de, par exemple, toutes les personnes. On parle souvent, vous savez, des détenus basques, hein, du Pays basque. Comme c'est souvent des affaires de terrorisme, ils sont jugés et incarcérés pour beaucoup à Paris, et en tout cas jamais ou quasiment jamais dans le Pays basque. Donc les familles, tous les week-ends, elles font 800 km ou plus pour essayer d'aller au parloir pour voir leurs proches incarcérés. Pour les personnes qui sont incarcérées à l'étranger, alors là, ça dépend des pays, en fait. En général, c'est parce qu'ils ont commis quelque chose à l'étranger, hein, pour lequel ils doivent être jugés. Et une fois qu'ils sont condamnés, on a au niveau de l'Europe des accords, la France avec les autres pays, pour que la personne puisse, une fois qu'elle est condamnée, venir purger sa peine en France. Donc rentrer en France pour purger la peine, ce qui rapproche un peu de la famille. Et après, dans le reste du monde, bah, ça dépend des pays. Il faut qu'on ait des accords spécifiques entre voilà, la France et le pays pour qu'il y ait cette possibilité-là.
Alors, qui a le droit aux visites ? Est-ce que c'est la famille ou est-ce que c'est plus large ?
C'est plus large, hein, heureusement, c'est-à-dire en priorité, l'administration pénitentiaire, elle privilégie encore la famille proche, ce qui pour nous pose un certain nombre de problèmes, parce qu'à l'extérieur, la famille, on va dire la cellule familiale classique, vous savez, les parents, les enfants, etc., c'est quelque chose qui a quand même pas mal bougé dans la société générale, quoi. Et du coup, en France, on est encore un petit peu, voilà, les prioritaires, ce sont les conjoints, les parents et les enfants directs, on va dire, de la personne détenue. Maintenant, quand on est ami d'une personne détenue, on peut demander un permis de visite et aller voir la personne au parloir.
Et comment ça s'organise au niveau de la fréquence, de la durée, les interdictions et autres
D'accord. Pour les personnes qui sont en attente de jugement, on dit les prévenus, hein, les gens en détention provisoire, ils ont droit à au moins 3 parloirs par semaine. Et pour les personnes qui sont condamnées, c'est au moins 1 parloir par semaine. Alors, à l'heure actuelle, on a beaucoup de prisons qui sont très surpeuplées, et du coup, il y a énormément de familles qui demandent des permis de visite et des visites, et du coup, l'administration a du mal à répondre positivement à toutes les demandes, puisqu'il y a voilà, beaucoup, beaucoup de demandes, et pas assez de place dans les tours de parloir.
Alors, vous nous avez parlé des difficultés qui touchaient toute la famille, en fait.
Oui.
Et quels sont les besoins alors, auxquels vous pouvez répondre pour les familles des détenus ?
Ben, on va les accompagner. Déjà, on va leur donner de l'information sur leurs droits, parce que souvent, ils n'ont pas l'information, ils savent pas comment ça se passe, ils ont des difficultés. Par exemple, quand la personne, le proche vient d'être incarcéré, on ne sait pas si on peut lui amener des vêtements, quel type de vêtements on peut amener, est-ce qu'on peut amener à manger ou pas, est-ce qu'on peut lui envoyer des colis, etc. Donc on essaie de leur donner l'information de base déjà sur ça. Et puis après, par exemple, pour une personne à qui la prison refuse le permis de visite, on va leur expliquer les démarches qu'ils peuvent faire pour essayer de contester le refus, pour essayer d'obtenir un permis de visite. Voilà, en fonction des demandes des gens, on va les renseigner sur leurs droits et surtout les démarches qu'ils peuvent faire pour faire valoir ces droits.
Et quels sont les contacts, justement, que peuvent avoir les détenus avec l'extérieur, au-delà des parloirs ?
Alors, je vous le disais tout à l'heure, donc il y a le courrier, il y a le téléphone. Mais le téléphone est très très limité en prison à l'heure actuelle. Les personnes détenues n'ont l'autorisation de téléphoner que sur des téléphones fixes. Ce sont des petites cabines qui sont en général ou dans les couloirs ou en cours de promenade, où il n'y a pas du tout d'intimité, même de secret, quoi, quand on parle à quelqu'un. Et en plus, ça se paye à l'unité. Alors c'est vrai que pour les gens, c'est difficile, parce que une personne qui voudrait appeler, par exemple, sa famille tous les jours, ça va lui coûter 250 € au bout du mois au moins. Alors que maintenant, dehors, on a des forfaits de portable qui sont beaucoup, beaucoup moins chers. Hein, ouais. Alors du coup, on a une situation à l'heure actuelle, c'est que pour pouvoir garder le contact avec la famille, avec les enfants, il y a beaucoup de détenus qui se procurent en douce des téléphones portables pour pas perdre le contact avec leurs proches.
Oui, parce qu'on imagine que c'est un petit peu hypocrite. Alors, un téléphone aussi cher, c'est quasiment inutilisable.
Bah oui.
Pour les familles. Et bon, j'imagine que tout ce qui est Internet, c'est pas possible.
Non, il y a que quelques prisons très très rares en France où il y a des salles informatiques où il y a, si vous voulez, un système de simulation d'Internet. C'est-à-dire, en fait, l'Internet est copié et puis le site n'est pas connecté directement. Vous voyez, parce que il y a, pour des mesures de sécurité, l'administration interdit qu'il y ait des possibilités de connexion directe. Donc, en fait, c'est un peu du faux Internet, quoi, auquel ils peuvent avoir accès. Mais c'est très très rare, hein, à l'heure actuelle, et ça pose aussi des problèmes, parce que pour des gens notamment qui font des peines très longues, ça veut dire que c'est des gens, s'ils n'ont jamais utilisé Internet, etc., ça veut dire que quand ils vont sortir de prison, ils vont être complètement démunis avec tous les nouveaux outils qu'on peut avoir. C'est vrai que maintenant, pour chercher du travail, ça se fait sur Internet, et on envoie un mail avec une candidature. Pour faire plein de démarches, ça se fait par Internet. Et là, la plupart des gens en prison, ceux qui sont en prison depuis longtemps, par exemple, ils ne savent pas du tout faire ça.
Et où est-ce qu'on vous trouve et quelles sont les relations avec l'administration pénitentiaire?
Ouais. Alors, vous voulez dire où est-ce qu'on nous trouve?
Comment peut-on vous contacter?
Ouais. Alors, le plus pratique, c'est de commencer par le contact par le biais de notre site Internet.
Oui.
Donc, c'est www.oip.org. Et là, il y a toutes nos coordonnées, il y a le moyen de nous contacter, donc ça, c'est le plus simple. Voilà, alors, nos relations avec l'administration pénitentiaire, elles sont... On est quand même une association militante, nous, on veut faire bouger les choses, donc c'est vrai qu'on va dire qu'en général, on appuie là où ça fait mal, c'est-à-dire là où il y a des dysfonctionnements, là où il y a des atteintes aux droits. Donc, on est un interlocuteur avec parfois des relations un peu tendues, parce qu'on rend public les problèmes, les dysfonctionnements et les atteintes aux droits qui existent dans la prison. Mais on est un interlocuteur quand même, c'est-à-dire que on alerte sur les situations problématiques, et du coup, on est entendu, en tout cas, par le ministère de la Justice.
Et alors, je vais revenir un peu sur pour ce qui est des visites.
Oui.
Est-ce que les refus doivent être, je dirais, justifiés par l'administration pénitentiaire?
Oui, il faut que ce soit effectivement motivé. C'est-à-dire qu'en général, un refus, on reçoit une lettre qui dit on ne donne pas suite à votre demande, mais là, il faut demander, c'est ce qu'on conseille aux familles, hein, de demander des explications sur le motif du refus, pour après, éventuellement, et là aussi, on va les accompagner, parce qu'on travaille avec des juristes et avec des avocats, s'il y a besoin de faire un recours en justice pour obtenir un permis de visite.
Et je vais conclure, terminer avec cette phrase, il me semble. Que faudrait-il améliorer pour les droits des familles et des détenus, concrètement ?
Très concrètement, malheureusement, ça ne peut passer que par une petite révolution qui ferait que on arrête d'utiliser la prison pour toutes les formes de peine. Il y a des gens qui, à l'heure actuelle, vont passer une semaine, voire 3 jours en prison, ou 15 jours, et ça les désocialise. Si déjà les prisons n'étaient plus surpeuplées, et que tout un tas de gens purgeaient leur peine autrement, on aurait une situation où, pour ceux qui sont encore dedans, il y aurait plus de respect des droits, on va dire des meilleures conditions, et surtout une meilleure préparation à la réinsertion et à la sortie.
Eh bien, Vivien, vous parlez. Oui.
Merci, Rémi. J'avais une question.
Ouais.
On approche évidemment des élections présidentielles.
Mm-hmm.
On a vu qu'il y avait deux écoles, hein, plus de sûreté ou plus de droits.
Oui.
Et que beaucoup d'associations profitent là pour faire passer un peu leurs revendications, on va dire, aux candidats. Est-ce que vous avez agi dans ce sens-là?
Oui, tout à fait. On a lancé une pétition là, qui est accessible aussi sur notre site, justement pour demander plus d'alternatives à la prison. Et on s'est adressé aux candidats. On a regardé leurs différents programmes. Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, de l'extrême droite jusqu'au centre, ils sont tous pour la construction de prisons supplémentaires. Alors que malheureusement, on sait, plus on construit, plus on remplit. Donc on va pas régler le problème comme ça. Et il y a que effectivement les deux candidats de gauche, excusez-moi, qui eux se sont prononcés pour d'autres mesures et les alternatives.
Ça va être l'heure de vous remercier, François Besse, de l'Observatoire international des prisons. Vous nous avez dit votre site internet, si vous voulez le rappeler peut-être.
Oui, c'est www.oip.org.
Un numéro de téléphone éventuellement?
Bien sûr, le 01 44 52 87 90.
Encore une fois, merci beaucoup, Monsieur François Besse, coordinateur du pôle enquête de l'Observatoire international des prisons.
Merci à vous.
Nous venons d'écouter Le King, Elvis Presley, Jailhouse Rock.
Oui, bien maintenant, un petit texte sympathique ou embêtant, on va bien voir. Le titre, c'est « Humainement débile ». Vaut-il mieux la prison à barreaux ou la prison humaine? Trop, c'est trop. Des deux, sortir vivant de la prison sa peau. S'évader des cages à animaux, en rêve, en vrai, enfin, au dehors. Souvent, on en sort, on est déjà mort. Mort dedans, dehors, un autre décor. Ça fait mal à la vue, à tout, au corps. Il n'y a pas de mots pour dire, aussi je me tais, j'ai écrit, mais je me tais. Je vous rajoute en aparté que je souhaite un prompt rétablissement et un rapide retour à Béatrice. Pour une fois, pleinement dans sa tête et dans son enveloppe charnelle, la tête sur ses épaules donc, en espérant que notre IT médicale nous reviendra entière avec les programmes médicaux, souhaitons qu'elle ait la même tête, sûre d'elle-même, prisonnière en son corps. Alors bon courage Béatrice de la part de Rémi et de l'équipe qui se joint à moi, je le souhaite et j'espère pour un prompt rétablissement médical. À vous Béatrice.
Et maintenant on va passer au lancement de la petite cuisine de Zone Libre. Et
bonjour. Alors aujourd'hui nous allons vous préparer donc un dessert, donc un gâteau à l'orange rapide. C'est un gâteau pour 6 personnes. Donc, le temps de préparation est de 15 minutes et le temps de cuisson est de 30 minutes. Alors, pour les ingrédients, il nous faut 115 g de farine de beurre ramolli, 115 g de sucre en poudre, ça correspond à 15 centilitres à peu près, 2 gros œufs et 115 g de farine ce qui correspond entre 20 donc, et 25 centilitres. Un sachet de levure chimique et 3 belles oranges. Alors, pour commencer, nous allons donc mélanger le beurre ramolli avec le sucre en poudre et les œufs. Pour amollir le beurre, nous le passons tout simplement au micro-ondes. Prendre bien soin de préparer votre moule en beurrant donc généreusement ce moule. Une fois que le beurre sera ramolli, nous le mettrons dans le récipient et nous mélangerons donc le sucre en poudre et les œufs. Donc rappelez donc qu'il y a 2 gros œufs.
On rajoute les œufs.
On rajoute les œufs, donc 2 gros œufs.
Le blanc et le jaune.
Le blanc et le jaune, oui. Une
technique pour casser l'œuf avec le couba.
Ouais, la couba il est. Pour mélanger donc la mixture. Avant, il faut donc ajouter la farine, le sucre, la levure chimique. Donc nous allons ajouter donc la farine donc et le sachet de levure chimique. Donc la farine, je rappelle, entre 20 et 25 centilitres, soit 115 grammes. Dans le moule réservé à cet égard. Alors on verse la pâte donc dans le moule. La cuisson. Cuire à four moyen, donc thermostat 6-7, chaleur tournante pendant 20 minutes. Donc nous, comme le nôtre n'a pas de chaleur tournante, on va mettre 30 minutes. Alors, on reprend tout. Pour préparer donc ce gâteau à l'orange rapide, il nous faut 115 g de beurre ramolli, 115 g de sucre en poudre, soit 15 centilitres, 2 gros œufs, 115 g de farine, soit 20 à 25 centilitres, un sachet de levure chimique et 3 belles oranges. La préparation, mélangez le beurre ramolli avec le sucre en poudre et les œufs, ajoutez la farine et le sachet de levure chimique, ajoutez ensuite le zeste d'un citron et éventuellement d'un demi-citron. Beurrez le plat pour préparer donc à mettre la pâte. Cuire à feu moyen, donc thermostat 6-7, chaleur tournante pendant 20 minutes ou un petit peu plus en fonction de votre four. À la sortie du four, arrosez ce gâteau avec un sirop léger. Jus d'orange plus sucre, éventuellement plus citron, le tout chauffé pour faire du sirop. Arrosez le gâteau avant de faire une décoration avec des copeaux de chocolat noir. Après ça, bon appétit.
Merci. C'est l'histoire d'un roi africain qui avait un ami d'enfance avec qui qu'il était très proche. Cet ami avait une habitude curieuse, quel que soit l'événement qui lui arrivait dans sa vie, positif ou négatif, il disait toujours « tout est grâce ». Un jour, le roi et son ami partirent à la chasse. Son ami prépare les fusils pour le roi. Mais il fit sans doute une bêtise, car un des fusils explosa dans les mains du roi et lui priva de son pouce. Au moment où cet accident arriva, l'ami dit, comme d'habitude, tout est grâce. Allah, là, cela, comme à cela, le roi qui était vraiment très en colère lui répondit, non, il n'y a aucune grâce à cela. Et en donnant la preuve à son ami en le jetant en prison. Un an plus tard, le roi alla chasser hors de son royaume et des cannibales capturent le roi et fit prisonnier dans leur village. Ils l'attachaient à un tronc d'arbre, mis du bois et s'apprêtaient à le griller vif pour le manger. Mais au moment où il allait mettre le feu, il s'aperçut qu'il manquait un pouce. Une de leurs croyances étant qu'en le mangeant, il leur arriverait la même chose. Alors il détacha le roi et le laissa partir. Sur le chemin du retour, exténué et choqué, le roi se souvient des circonstances dans lesquelles il avait perdu son pouce. À peine arrivé, il se fit conduire à la prison pour parler à son ami. « Tu avais raison, mon ami, » dit-il. « C'était une grâce que je perds mon pouce. » Et il raconta alors à son ami ce qui lui était arrivé. « Je te supplie de me pardonner de t'avoir laissé croupir en prison pendant si longtemps. C'était mal de ma part de t'avoir fait cela. » Son ami lui répondit « Non. » « Mais non. » Au contraire, tout est grâce. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment le fait de te jeter en prison, toi, mon ami, pourrait être une grâce? En fait, si je n'avais pas été en prison, j'aurais été avec toi. Et il m'aurait mangé. Ce qui nous arrive dans la vie ne semble toujours pas avoir de sens. Mais parfois, ce que nous jugeons sur le moment négatif peut s'avérer d'être plus tard une bénédiction.
C'est une nuit conventionnelle. Un chien aboie, une chouette ulule. Les prisonniers dans leurs cellules rêvent de creuser un tunnel.
Mais avec une petite cuillère, il faudrait être un peu naïf. La prison n'est pas un gruyère, si au moins j'avais un canif.
Je vous fais porter une brioche fourrée avec une pioche, 10 mètres de corde environ, dans la dinde au marron. Si vous goûtez la mortadelle, n'avalez pas la pelle. Ce n'est pas tout car j'ajoute une lime dans le pâté en croûte et dans le petit pot de beurre une pince, monseigneur.
Dans la purée, pas de grumeaux,
seulement le chalumeau.
10 mètres de corde environ
dans la dinde au marron.
Un vilebrequin dans le ragoût,
ça lui donnera du goût.
Et le poil dans la choucroute, moi franchement ça me dégoûte.
Filez avant que le jour se lève, si vous trouvez la fève. Une nuit conventionnelle, un chien aboie, une chouette ulule, les prisonniers dans leurs cellules rêvent de creuser un tunnel.
Je cherche sans y parvenir une position pour dormir.
Aboie le chien, ulule la chouette,
je m'allume une cigarette. Imagine un cigare qui fume, une pâtisserie qui vole des tours, une danseuse avec une plume dans la pièce montée des grands jours.
Pourvu d'un pistolet en sucre, doté de pièces en chocolat, bonne à manger, pas pour le lucre.
Je les cacherai pas sous mon matelas.
Je vous fais porter une brioche fourrée avec une pioche, 10 mètres de corde environ dans la dinde au marron. Si vous goûtez la mortadelle, n'avalez pas la pelle. Ce n'est pas tout car j'ajoute une lime dans le pâté en croûte et dans le petit pot de beurre une pince, monseigneur.
Dans la purée, pas de grumeaux,
seulement le chalumeau.
10 mètres de corde environ
dans la dinde au marron.
Un vilebrequin dans le ragoût,
ça lui donnera du goût.
Mais le poil dans la choucroute, moi franchement ça me dégoûte.
Et avant que le jour se lève, si vous trouvez la fève. Filez avant que le jour se lève, si vous trouvez la fève.
C'était Thomas Fersen, pièce montée des grands jours.
Les aventures du Narvalo, c'est dans Ozone Libre.
Il était un fion, deux fions, trois fions. Filons avec la fine équipe en direction de l'île de Ré, à bord du Cocarbus piloté par le bien avenant et attachant Louis-Émile. Les neuf passagers occupent à eux seuls l'intégralité du Cocarbus. Des travaux de détoiturification pacifique décapotable ont été nécessaires afin que Moulmou puisse déplier son cou de girafe et prendre ses aises. Un bassin est installé en remorque sous les cabinets qui sont sur le toit pour que Ronald Trumpet s'hydrate et batifole. Les autres s'assoient comme ils peuvent en fonction de leur morphologie. Il y règne une odeur entre la ménagerie, les cuisines d'un Mac Quick FC King et une chambre d'adolescent.
Bah, où c'est qu'on dit qu'on va ? L'île de Ré ? Ok, je demande à mon GPS. Peux-tu nous indiquer le chemin jusqu'à l'île de Ré avec un maximum de péage et le moins d'autoroutes possible ?
Oui, je le peux. En tant que version low cost, ma précision est d'environ 1000 km dans les bons jours.
Allez, c'est parti mon kiki !
Pas mal tant que l'accent, ça me rappelle la doux voix de maman qui chantait de Braxios.
Ah, mais j'en ai plein d'autres. Attention, les étagères à mégots.
Attention, pour votre santé bancaire, sachez que fumer coûte cher. Pour arrêter, faites-vous aider. Connectez-vous sur ceita.sante.gouv.5fruitsetlegumesparjour.fr.
Construire des étagères à mégots doux, c'est quand même très dur.
Ça ne m'étonne pas, mou, venant mou, de cette espèce sous-développée mou, proche de l'ornithorynque mou.
Bah, je sais pas ce que c'est un ornithorynque, mais les étagères à mégots, c'est les escalopes. Les portugaises, les esgourdes, les écoutilles, bref, bah les oreilles.
Oh, 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 j'aime pas trop les blagues sur les oreilles.
Normal, tu fais la pige à Jumbo.
Je vais te mettre un coup de trompe à travers la trogne, tu vas pas t'en relever.
Calme-toi doux, ou t'exploses dur.
Au prochain rond-point, prenez une sortie, puis tournez avant de faire demi-tour, dès que possible. Vous êtes arrivés.
La fine équipe arrive enfin à l'île de Ré, à 1000 km près. À peine arrivés, ils se séparent en deux groupes. Un groupe pêche aux moules et un groupe chasse aux huîtres.
Heureusement que j'ai amené mon bazooka. Je savais pas qu'on allait chasser les huîtres. Elles sont dangereuses en ce moment. C'est un mois en R.
J'ai repéré des empreintes d'huîtres doux. Je vais poser des mines à fragmentation dure.
Très bien, mou. Nous n'avons plus mou qu'à attendre mou avec des citrons mou et de la vinaigrette mou aux échalotes mou.
Ma poupette, pourrais-tu te mettre en quête de moustiques tigres ?
J'adore les activités stupides. Mon babagoné, j'affoute ma pince, appelée ma poucroix frère.
Pour la pêche à la moule, à la mouche, aux moustiques tigres, leur préféré. L'astuce, c'est d'attendre qu'elle baille et de bien viser. Deux jours après, toujours rien à se mettre sous la dent. Les deux équipes, les rouges et les jaunes, se rejoignent épuisées, déshydratées, affamées, désillusionnées, éprouvées, désorientées, désappointées,
mais épilée et toujours souriante.
J'ai eu beau chercher, j'ai pas encore trouvé la mer. Deux jours de marée basse, ça paraît long. Pas le moindre petit pélican en vue. Une île sans mer, je m'interroge.
Moi j'ai trouvé des moules, mais je vous dirai pas où. Un coin à moules, c'est comme un coin à champignons, ça reste secret. J'en ai tout un sac.
Fais voir. Alors c'est pas des moules, c'est des langoustes, et t'as laissé le ticket de caisse.
Ah bah ça je sais pas, moi je mange pas de fruits de mer. Pour moi, langouste, mangouste, loutre, cousteau et calypso, tout ça c'est pareil. Par contre, je les ai pêchés moi-même. J'ai failli me noyer dans le vivier, qui plus est.
En plus, t'es fier doux. C'est pathétique du...
À force mou, de traîner mou, dans l'eau mou, vous ressemblez mou, de plus en plus mou, à des ornithorynques de mer mou.
Votre île de Ré ressemble quand même beaucoup à Auxerre, ville que j'avais placée dans mon top 1 des villes à détruire. De toute urgence, c'est pas tout moyen. À égalité avec Évreux et sa fameuse Côte d'Ivoire.
Ouh là là, hé, touche pas à mon gagne-pain, la Merloc. J'ai mon siège antisocial qui perd son sang-froid dans les eaux du port autonome de la Côte d'Ivoire d'Évreux. Arrête où j'appelle Vladimir. Il ressortira ta VHS Betamax V2000 avec la scène du Golden Pédiluve.
C'est du chantage. C'est de la propagande pluto-démocratique basée sur des faits alternatifs. D'ailleurs, je fous jamais les pieds dans les pédiluves. Ou alors avec des brassards de gros orteils. Bon, ok, j'arrête. Evro est épargné.
Bon, allez, pour te faire plaisir, comme tu m'as l'air d'être un bon petit gars dans le fond, je t'autorise à raser le nord des Hauts-de-France. Ah, et puis aussi le sud des Hauts-de-France. Mais attention, ne rate aucun terril sucré-salé, mais néanmoins populaire.
Évreux et sa Côte d'Ivoire est sauvée pour le meilleur et plus probablement pour le meilleur du pire. La fine équipe, composée exclusivement de ses membres, bras, jambes et accessoires, comme Christophe Colomb, a trouvé Auxerre en cherchant l'île de Ré. C'est la preuve que la Terre est plate comme un ballon de basket, précieusement conservé et répertorié par Guy Roux dans son coffre-fort de Twingo. Mais pensez-vous que l'inspecteur Lafouine pourrait faire un incroyable nouveau re-comeback dans le prochain épisode? Combien d'années de pratique ou combien de conseils de discipline pour être jury d'acrosport? Les langoustes seront-elles sauvées, graciées, libérées, délivrées? N'y a-t-il vraiment aucune star à Auxerre? Pour le savoir, rendez-vous le jeudi 27 avril à la même heure, dos au bac Xenia.
Les aventures du Narvalo, c'est dans Ozone Libre.
Quelle est, selon vous, l'utilité de la prison?
La prison, elle sert à quoi, selon vous?
La prison, normalement, elle sert à... pour les hors-la-loi.
Bah, l'utilité de la prison, c'est qu'on a fait une sanction, c'est la loi. On a fait une faute, on est puni. Et la détention est là justement pour poser la punition. Hein. Donc on perd notre liberté.
C'est pour les éduquer.
Franchement, c'est partagé. Je pense qu'il y en a qui sortent encore plus déglingués qu'à la base. Je pense que c'est 50-50, ils peuvent pas faire du cas par cas, mais je pense qu'il faudrait faire du cas par cas.
De redresser les personnes, de maintenir la paix. Faut pas que tout le monde soit libre de tout faire, sinon ça sert à rien d'avoir un pays comme ça, structuré. Ça respecte pas les bases.
Ouais, faire changer les gens.
On fait des bêtises, ça permet de recadrer les gens, de pas refaire toujours la même bêtise.
Quelles peuvent être les alternatives à la prison?
Il faut, par exemple, faire des associations, comment les éduquer, comment les faire, les prévenir, pour ne pas faire des problèmes, des escrocs.
Donc, je pense que après la détention, après selon la peine, on peut proposer justement le bracelet électronique. On peut proposer de dormir juste à la prison et continuer à travailler. Ça permet de garder du lien social. Ça permet justement au prisonnier de préparer sa sortie. Il a toujours l'enfermement, mais à la journée, à l'extérieur, il y a plein d'autres choses à faire, je pense, avant d'être enfermé. Ouais.
Peut-être plus d'encadrement sur les jeunes à problème. Je sais pas.
Des stages de redressement, des travaux d'intérêt généraux, ça serait plus bénéfique que de se enfermer directement, je pense. Faut être laxiste sur ça. Après, ça... peut-être des... comme des amendes à la place de la prison, des grosses amendes.
genre ramasser les papiers dans des voies des ferrées et comme ça, faire des trucs civiques. Mais c'est mieux qu'en prison, quoi. Parce qu'il y a quoi faire en France.
Hein. C'est que pendant la guerre, les Allemands avaient mis mon père en prison à Évreux. Alors voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.
Si on vous dit renfermez-moi, à quoi pas ?
À la vie, je pense. Ouais.
La misère. Du tort, des gens qui sont enfermés à tort, de... C'est pas toujours très logique. Il y a des gens qui sont enfermés pour pas grand chose. Et vous avez des assassins qui courent encore. Voilà, c'est ce que je pense. Hein. Détention. Enfermement. Suite à une peine. Oui.
Détenu.
Délit. Salle, délit. La prison. Bah, être enfermé. Okay. Pas de liberté.
Bêtise. Ouais. Forcément.
Criminalité.
Criminalité.
Repentance. Bah, c'est un lieu qui est pas terrible à y aller, quoi. Si on peut éviter.
Quelles peuvent être les conséquences de la détention pour les familles des détenus?
Quelles peuvent être les
conséquences de la détention
pour les familles? On va repartir encore sur la même chose. Si quelqu'un est détenu pour une connerie, une bêtise, excusez-moi. La famille va en souffrir forcément, surtout si c'est une bêtise. Vous allez voler une baguette de pain, on va vous coller des trucs sur le dos, la famille va forcément pâtir pour des choses anodines. Alors que pour des plus grands sujets, ça ne va pas être traité comme il le faut. Bah déjà, la perte de contact, briser des familles, je pense, ça peut briser des familles. Ça peut être très compliqué pour les familles justement de garder le lien avec les gens qui sont en détention.
La tristesse, la peine, se demander pourquoi ça leur arrive à eux, être séparés de leur ami ou leur concubin.
Une honte, il y en a qui jugent mal la prison, quoi. Quand t'es prisonnier, t'es vite jugé, quoi.
L'exclusion, le mal-être.
Et ouais. Comment minimiser les répercussions de la détention pour les familles des détenus, selon vous?
La justice, monsieur. La justice. La justice fait pas son boulot. Bah déjà, en gardant toujours le lien de la famille, en essayant de, pour la réhabilitation après de la personne, par la suite, je pense que toute détention va vraiment avoir un travail réel de l'orientation et ce qui va se passer par la suite, et justement sur ce lien de la famille, je pense qu'après, par la suite, ça permettra d'avoir moins de peine. Hein.
Aucune idée. Il n'y a pas des associations pour encadrer les familles de détenus? Si, bah, c'est bien, tant mieux.
Des visites surveillées, pas rester qu'à la prison et aller voir leur famille pour les petits délits. Ouais. Pour les prisonniers qui sont dociles, on va dire.
Pourquoi je me réveille? J'ai l'impression d'avoir dormi une éternité. Je suis entravé, entièrement entouré par de la terre, même de la terre cuite. Au-dessus de moi, il y a du bois, un disque de bois, et des bruits, des grincements qui semblent provenir du morceau de bois, comme s'il bougeait difficilement. Le disque de bois se soulève. Des odeurs envahissent l'air, un pot vraiment pourri, un mélange d'odeurs indescriptibles. La lumière entre maintenant par l'orifice libéré de son disque. C'était donc un bouchon, et je suis dans une amphore, ou une jarre, ou quelque chose comme ça. Des hommes regardent dans le pot, le secouent, le retournent, et ils regardent de nouveau. Ils ont l'air désespérés. Ils se disent, cette fois c'est foutu. Il n'y en a plus, plus du tout. Cette fois, il n'y a plus d'espoir. Et comment ça, plus d'espoir? Mais si, je suis là, moi, dans le pot. Ils regardent une dernière fois, referment le pot et le reposent. Ils ne me voient plus. Pourtant, je suis toujours là. Pourquoi? Pourquoi suis-je invisible à leurs yeux? Pourquoi ne me voient-ils plus? Serais-je mort?
Eh bien oui, nous arrivons enfin à notre conclusion. Donc, en conclusion, nous espérons que cette heure passée en notre compagnie vous aura ouvert des portes de compréhension. Nous remercions encore M. François Besse, coordinateur du pôle enquête de l'Observatoire international des prisons section France. Nous remercions également toute l'équipe de Zone Libre, une équipe haute en couleurs et en mots, ainsi que l'équipe de Principe Actif, le Godfather JC, l'homme de main d'aujourd'hui Damien et l'armoire à glace italienne Timothée. Notre prochaine émission aura lieu le jeudi 27 avril de 12h30 à 13h30, toujours sur Principe Actif. Si vous souhaitez nous réécouter, n'hésitez pas à rechercher notre podcast sur principeactif.net à la page d'Ozone Libre. Point. Il est à présent 13h30, en conséquence, nous sommes contraints de rendre l'antenne avant l'arrivée d'On ne sait qui. Et oui, on ne fait pas ce qu'on veut. À bientôt, au revoir.
Écoutez bien. Ozone, O3. Gaz, 3 mm d'épaisseur. Environ 300 dopsons.
Ozone libre. Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le petit Thomas attend ses parents à la caisse centrale.
Ozone libre.
Est-ce qu'on a retrouvé Thomas?
Ozone libre, de cristaux.
Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le temps passe.
Bienvenue chez Dobson. Ozone libre.
Ozone libre.
Ozone, une heure de liberté.